Ici en chapitre 1, Marc chapitre 8, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le moment charnière de l'évangile. C'est vraiment un tournant. Vous savez que pas loin d'ici, sur le canal de Midi, il y a le seuil de Norouz, où il y a le partage des eaux. C'est peut-être, vous ne le remarquez pas, mais à partir, il y a des pentes, donc à partir d'un moment, l'eau coule soit vers l'Atlantique, soit vers la Méditerranée. Et ici, Marc chapitre 8, c'est un seuil, c'est un tournant, c'est un point culminant de l'évangile. Et en particulier, vers la fin du chapitre, cet échange entre Jésus et Pierre, et la question que Jésus pose à Pierre et sa réponse. Et je pense que Marc vraiment cherche à structurer son livre ainsi. Vous avez tout au début la première phrase de l'évangile, c'est Marc lui-même qui le dit pour nous introduire ses thèmes, son projet, c'est commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et tout à la fin, à une scène étonnante, à la fin de la crucifixion, venant d'un personnage, surprenant, le centenier romain, il voit comment se déroule la mort de Christ et il proclame, aussi une phrase clé du livre, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et puis juste au milieu, vous avez Jésus qui pose la question à ses propres disciples et vous, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Et d'après d'autres évangiles même, il dit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Donc il y a vraiment une structure assez claire dans cet évangile de Marc, où Marc montre qui est Jésus, l'identité de Jésus, et il met cette question au milieu de son livre. Après, vous avez peut-être remarqué ça, mais après chaque affirmation de l'identité de Christ, c'est suivi par une confirmation de la part de Dieu lui-même. Juste après chapitre 1, il y a le baptême de Jésus où Dieu dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Juste après, ici, Pierre, la réponse de Pierre, en chapitre 9, que nous n'étudions pas ce matin, mais il y a ce qu'on appelle la transfiguration, où Dieu dit encore, tu es mon fils, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et juste après la déclaration du centenier, il y a la résurrection de Jésus-Christ, une autre manière que Dieu affirme l'identité glorieuse de son fils. Donc, vous voyez un peu le... comment Marc a écrit son évangile pour diriger nos regards, pour mettre la question centrale, le moment charnière ici, sur l'identité de Jésus-Christ. Qui suis-je et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et si Marc décide de structurer son livre ainsi, pour mettre l'accent sur ce moment charnière, non seulement c'est le moment charnière de son livre, mais je pense qu'il nous amène à cette réflexion, c'est le moment charnière de notre vie. C'est la manière que nous répondons à cette question qui va déterminer deux destinées différentes pour les êtres humains, tout comme le seuil, tout comme le partage des eaux. C'est la manière que vous répondez à cette question qui va vous orienter toute une vie et toute une éternité. On ne peut pas échapper à l'importance de cette question. Quelle que soit la réponse que nous donnons, c'est quand même une question capitale. Qui était Jésus? Qui est Jésus? Et ça va dans les deux sens. Si Jésus était un homme, un gentil rabbin sans plus, et que je sacrifie tout pour lui, que je le suis de toute ma vie, que j'estime qu'il est Dieu, alors je suis en train de vivre un mensonge. Et je proclame le mensonge aux autres, ce qui est grave, ce qui n'est pas bien. Si Jésus est Dieu, je rate ma vie si je ne fais aucun cas de lui. Donc vous voyez que la neutralité quant à cette question est impossible. Il faut répondre. Soit on dit qu'il est juste un homme, soit on dit qu'il est Dieu, mais ça va orienter nos vies. Ça ne peut qu'orienter nos vies. Mais Marc veut écrire son évangile pour nous aider à répondre à cette question. Qui était Jésus ? Et pour répondre à cette question, il faut voir clair. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Les disciples commencent à voir clair dans ce chapitre 8, mais ce n'est pas entièrement gagné pour les disciples de Jésus-Christ. Et nous voulons cheminer avec eux un peu sur la manière qu'ils sont en train de voir, de comprendre qui est Jésus. Ce que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est que la guérison de l'aveugle, qui est au cœur de notre texte, qui est au milieu de notre texte, la guérison de cet aveugle est un parabole, c'est une prophétie, en quelque sorte, une image de ce que les disciples eux-mêmes sont en train de vivre avec Jésus. Et j'espère que plusieurs d'entre nous, plusieurs qui fréquentent notre Église, ceux qui sont en train de vivre cette compréhension progressive, cette vision progressive que Dieu accorde sur qui est Jésus. Le but ce matin, donc, c'est de faire un test de vue, un bilan ophtalmologique. J'ai dû faire ça récemment, a priori ça va, mais un de ces jours, ça n'ira plus. Et chacun de nous, un test de vision, comme cet homme qui va recevoir la vue, où en sommes-nous? Et clairement, Marc montre trois étapes, l'aveuglement, ensuite la vision floue, et enfin la vision claire et nette. Voilà ce que cet homme aveugle, dans les versets 22 à 26, vit. Et en fait, c'est une image de ce que les disciples de Jésus-Christ aussi sont en train de vivre dans ces chapitres 8, 9 et 10. Donc voyons tout d'abord l'aveuglement, l'état de l'aveuglement, qui est une image de notre condition spirituelle, bien souvent avant de saisir, comprendre l'identité de Jésus-Christ. Alors, si on retourne vers 22, ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle. Il faut dire que le monde à l'époque n'avait pas les ophtalmologues, n'avait pas les opticiens, n'avait pas les lunettes, ne connaissait pas les opérations réparatrices de vue. Alors l'aveuglement, la cécité est une condition très commune. Imaginons même nous dans cette salle, si on n'avait aucun recours à tout ce qui concerne la santé de la vue, on sera nombreux à être embêtés. Donc, ce qu'on trouve dans les évangiles, c'est pas mal de guérisons d'aveugles. C'est un miracle que Jésus fait assez fréquemment. Vous connaissez plusieurs cas. Mais ce miracle, la manière que Jésus fait, en plusieurs étapes, en tout cas, ce miracle est unique à l'évangile de Marc. On ne le trouve pas dans les autres évangiles. Et on pourrait dire que Marc met cette guérison d'aveugle dans son récit. Il le met juste après une scène d'incompréhension totale de la part des disciples. Et ce qu'il est en train de nous montrer, en réalité, je pense que c'est dans cet évangile jusqu'à là, les vrais aveugles, ce sont les disciples. Peut-être ça vous est arrivé en faisant la lecture du Nouveau Testament en 60 jours. Cette semaine, nous avons lu une bonne partie de Marc, tout Marc. Et en lisant Marc, peut-être vous êtes arrivé par ici avec un certain agacement envers les disciples. Et je pense que Marc veut créer en nous un agacement envers les disciples. Et quand on les voit, on se dit, mais ils deviennent de plus en plus bêtes, c'est pas possible. Parce que là, on a commencé la lecture en verset 14, les disciples avaient oublié de prendre du pain dans la barque. Ils avaient une baguette ou une flûte, je ne sais pas, avec eux et c'est tout. Là, nous sommes dans une troisième situation de barque, de disciples dans une barque, dans l'évangile de Marc. Et Marc répète la scène où les disciples sont dans une barque avec Jésus et ne comprennent rien. D'abord, en chapitre 4, ils sont dans une barque, il y a une tempête et ils paniquent. Ils paniquent complètement et Jésus doit les reprendre en disant, mais pourquoi vous avez eu si peur? N'avez-vous pas de foi? Et puis, deux chapitres plus tard, ils se retrouvent de nouveau dans une barque, de nouveau dans une tempête et là, de nouveau, panique à bord. Et Jésus doit les rassurer. Mais cette fois-ci, Jésus est un peu plus sévère. Il dit, mais vous avez rien compris. Et le texte dit parce que leur cœur était endurci, n'avaient pas compris le miracle des pains. Et puis ici, de nouveau en chapitre 8, ils sont dans une barque. Et là, ils oublient de prendre du pain. Alors Jésus vient de faire deux fois une grande multiplication des pains pour des milliers d'hommes. D'abord 4000, ensuite d'abord 5000 hommes et ensuite 4000 hommes. Et les disciples dans cette barque sont en train de s'inquiéter, de se soucier de la quantité des pains qu'ils ont pris. Et là, on dit, mais franchement, Jésus a déjà calmé deux tempêtes dans une barque. Il a déjà multiplié des pains pour deux foules. Et encore, les disciples sont soucieux, sont craintifs. Et on a l'impression qu'ils sont vraiment, aveugles. Ils sont vraiment fermés. Mais l'instant que nous sommes agacés avec les disciples, envers les disciples, je pense que là, c'est là où Marc nous tient. Marc a accompli son but. Parce que combien souvent nous sommes comme eux? Combien, si nous sommes frustrés avec les disciples, leur manque de foi, leur manque de compréhension, et ça retourne contre nous, parce que combien souvent nous sommes comme eux. D'ailleurs, si quelqu'un qui veut découvrir Jésus-Christ, qui veut découvrir le message de la Bible, commence par l'évangile de Marc, c'est très bien. Il commence par l'évangile de Marc et il lit l'évangile de Marc. Si quelqu'un lit l'évangile de Marc et arrive jusqu'ici, jusqu'à chapitre 8, et il n'est pas encore converti, il n'a pas encore vraiment donné son cœur à Jésus, Marc va dire, alors pourquoi? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Toi aussi, est-ce que tu es aveugle comme les disciples? C'est l'effet que ça crée en nous. Si nous sommes agacés avec les disciples, soyons agacés avec nous-mêmes pour notre lenteur de comprendre souvent tout ce que Jésus nous apporte, tout ce qu'il veut faire pour nous. D'ailleurs, il dit aux disciples en verset 15, il leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » La phrase est étonnante parce qu'il dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. » Alors, on avait déjà vu que les pharisiens et les hérodiens, ou Hérode, la partie d'Hérode, ils n'avaient rien en commun. Normalement, ils ne s'entendaient pas. Mais Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. Il faut dire qu'un peu à l'époque, les pharisiens c'était l'extrême droite et Hérode c'était l'extrême gauche. Alors il dit, gardez-vous de quelque chose en commun chez l'extrême droite et chez l'extrême gauche. Gardez-vous de quelque chose en commun chez les pharisiens et chez Hérode. Normalement, ils n'ont rien en commun. Mais nous savons, si nous lisons cet évangile, qu'est-ce que les pharisiens et les gens d'Hérode ont en commun jusqu'à là? Ce qu'ils ont en commun, c'est leur incrédulité, leur incompréhension de l'identité de Jésus, leur rejet de Jésus, parce que Jésus, à la fois, il dérange ces pharisiens avec leur rigueur religieuse, et Jésus arrive avec un autre message, à la fois, il dérange les hérodiens avec leur recherche de pouvoir et leur position confortable, Jésus apporte un autre message, donc, ce que les hérodiens et les pharisiens ont en commun, c'est le rejet de Jésus, leur incompréhension de son message. Alors Jésus met en garde les disciples, gardez-vous de ça, gardez-vous de ce rejet, de cette incompréhension, de cette incrédulité envers ma personne. Mais là, dans la barque, on comprend que ce rejet, cette incompréhension se trouve chez les pharisiens et les hérodiens, mais là on regarde les disciples et dans la barque, eux-mêmes manifestent cette incompréhension, cet aveuglement, ce rejet de qui est Jésus, parce qu'ils raisonnent, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Et Jésus dit, êtes-vous encore sans intelligence? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Donc la reproche qu'il leur fait, c'est qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas clair sur l'identité de Jésus, notamment. On a vu ce matin, c'est le Dieu créateur, le Dieu sauveur, c'est lui, Jésus, capable de multiplier des pains, capable de calmer une tempête, capable de guérir. Et les disciples sont lents, il semble qu'ils adoptent la même attitude que les pharisiens et les hérodiens à ne pas vouloir saisir ça pour eux-mêmes. Ne sommes-nous pas souvent aveugles aussi sur l'état de notre cœur? N'avons-nous pas des peurs et des craintes répétées, souvent répétées, alors que nous savons les promesses de Dieu, alors que nous savons ce que Jésus est capable de faire? Ne faisons pas comme eux et nous recommençons nos peurs et nos craintes et nous pensons qu'il est incapable de pouvoir pour nos besoins, il est incapable de gérer telle ou telle situation, alors qu'il a déjà fait combien de fois dans le passé? N'avons-nous pas des mémoires défectueux, oublieux, qui oublient la puissance de Dieu, qui oublient qu'il est présent avec nous, qui oublient qu'il marche avec nous? Parfois, nous sommes aussi infectés par ce levain, par ça, nous aussi, nous sommes aveugles sur tout ce que Jésus peut être pour nous. Donc, jusqu'à là, les disciples eux-mêmes semblent souvent aveugles sur qui est Jésus-Christ. Mais Jésus n'a pas fini avec eux, et comme il va toucher cet homme aveugle, il est en train de toucher ses disciples aveugles pour qu'ils voient clair sur sa personne. Donc, l'étape suivante, c'est la vision, mais floue. Et c'est ainsi qu'il opère ce miracle pour l'aveugle à partir du verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il y a encore quelques ressemblances, quelques parallèles avec ce qu'il va faire avec ses disciples. De la même manière qu'il prend l'aveugle à l'écart du village, dans les versets suivants, il va prendre ses disciples à l'écart, à Césarée de Philippe, c'est dans le nord, donc à l'écart des foules, à l'écart de Jérusalem. Et là, il va leur questionner, il va leur demander si eux, ils voient quelque chose, si eux, ils voient clair. Comme il demande à cet aveugle, après l'avoir touché une première fois, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» De la même manière, après avoir vécu ces 8 chapitres avec ses disciples, il va leur demander « Alors, est-ce que vous commencez à voir ? » C'est-à-dire, d'après vous, qui suis-je ? C'est une manière de demander, alors vous, est-ce que vous commencez à voir aussi ? Alors c'est vrai, c'est curieux de ce miracle, cette guérison progressive, on n'est pas habitué dans les évangiles. Est-ce que Jésus rate son coup la première fois ? Quand même pas dans le genre à rater son coup. Est-ce qu'il ne sait pas si ça a marché, puisqu'il demande à l'aveugle, est-ce que tu vois quelque chose? J'ai tenté un truc, est-ce que ça a marché? Mais on connaît Jésus, il peut guérir de loin, il peut guérir sur une parole, il n'a même pas vraiment besoin de faire une pommade avec sa salive. Il le fait, je pense, pour correspondre à peut-être des gestes médicaux de l'époque, mais il n'a pas vraiment besoin de ces choses. Il peut guérir instantanément, immédiatement, complètement, mais il le fait ici de manière progressive. Alors ça nous interpelle un peu parce que c'est pas habitué pour Jésus, mais si Marc le met là, c'est parce que les disciples sont en train de vivre la même chose. Et de la même manière qu'il venait de leur demander, et vous, ayant des yeux, ne voyez-vous pas? De même manière qu'il demande à cet homme, est-ce que tu commences à voir quelque chose? Juste après, dans ce chemin à l'écart, il va leur demander en verset 29, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est encore la question essentielle, c'est la question capitale. Qui était Jésus? Qui est Jésus? On s'approche de Pâques, et chaque année, il y aura des nombreux journaux, des magazines qui vont faire la une ou un numéro spécial sur le personnage Jésus. Qui était Jésus? Et souvent, c'est présenté comme qui était le vrai personnage historique de Jésus de Nazareth. Et dans leur démarche, c'est une fois qu'on enlève les mythes, une fois qu'on enlève les embellissements, une fois qu'on enlève les traditions qui se sont développées à travers les siècles, qu'est-ce qui reste? Qui était le vrai Jésus? Qui était le Jésus de l'histoire? Qui était Jésus de Nazareth? Et puis les réponses ressemblent un peu à ce qu'on trouve ici. Les uns disent c'est Élie, c'est Jean-Baptiste, c'est un grand prophète. Beaucoup encore aujourd'hui concluent la même chose quant à Jésus en disant oui, c'était un homme, un grand enseignant, avec voilà, un exemple noble d'amour et de sacrifice, une moralité louable. Beaucoup vont proposer ça. Mais c'est quand même la réponse de Pierre qui est la bonne. Tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es le Fils de Dieu. Et c'est la seule réponse qui correspond à ce que Jésus a déjà fait et déjà dit dans cet évangile. Non seulement ses miracles, mais sa manière de parler. On a un exemple de ça dans notre texte. Il dit à la fin de chapitre 8, il dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Selon l'évangile de Matthieu d'ailleurs, c'est avec ses anges. Jésus dit « Je vais venir avec mes anges, ce sont ses anges. » Et il dit « Si quelqu'un a honte de mes paroles, il rate son éternité, il rate sa vie. Si quelqu'un ne reconnaît pas en moi la réalité suprême de l'univers, s'il ne se positionne pas avec moi, eh bien il va rater toute son éternité. » C'est quand même des paroles extrêmes si c'est juste un simple homme. Un homme ne dira pas « Je viendrai avec mes anges. » C'est la seule bonne explication que nous avons pour expliquer Jésus-Christ, ce phénomène qui était Jésus-Christ, c'est de dire oui, c'est le Fils de Dieu. Et Pierre, c'est ce que Pierre répond. Tout comme la première réponse de l'aveugle qui dit je vois des hommes, mais c'est comme des arbres. Ici, Pierre dit tu es le Christ. Je commence à voir, tu es le Christ. Dans tout ce passage, Pierre n'est que la porte-parole des autres disciples. Je pense qu'il ne fait qu'exprimer ce que tous les autres pensent, à la fois dans sa réponse juste, à la fois dans la suite, quand il va se tromper. Il pense exactement pareil que les autres disciples. Et donc, on a un homme, on a Pierre qui dit, qui répond juste à la question. D'après vous, qui suis-je? Et Pierre dit, tu es le Christ. Et là, on a envie de dire Amen, Alléluia, enfin quelqu'un qui comprend. Parce que jusque-là, dans cet évangile, les seuls qui connaissaient l'identité de Jésus-Christ, ce n'est pas vraiment les hommes. On a vu les démons, eux, ils le savaient bien. Tu es le Saint de Dieu, tu es le Saint d'Israël, tu es le Fils du Très-Haut. Ça, ils le savaient, ils en avaient peur. Il y a Dieu le Père qui le savait, lui avec sa voix qui venait du ciel, tu es mon Fils. Donc Dieu le savait, naturellement. Les démons le savaient, naturellement. Mais jusqu'à là, les hommes, les êtres humains, les gens autour de Jésus, ils avaient du mal à comprendre l'identité de Jésus-Christ. Jusqu'à là, les meilleures réponses, en tout cas à Jésus-Christ, les meilleures expressions de foi, venaient des personnes étonnantes, comme nous avons vu la semaine dernière avec mon frère. Ça venait plutôt des étrangers, des étrangères, des exclus, des personnes plutôt exclues de la société. Eux-mêmes saisissaient et comprenaient l'identité de Christ. Mais les gens normaux, les disciples, ils ont du mal. Mais là, pour la première fois, on a une expression de foi, une confession de foi qui est sympathique, qui est vraie. C'est la première grande percée de foi réelle chez ces hommes. Mais bien que Pierre a dit juste, ce n'était pas tout. Et c'est là où nous voyons que sa vision était encore floue, tout comme l'aveugle que Jésus est en train de guérir. Parce que Jésus voit Christ, Pierre voit Jésus comme le Christ. Et Pierre voit Jésus comme le Christ royal, le Christ puissant, le Christ qui va chasser les Romains de Jérusalem. Et c'est à partir de ce moment que Jésus doit les toucher de nouveau, les amener plus loin, les prendre par la main, pour aller plus loin et pour voir encore plus clair sur son identité. Jésus doit ouvrir leurs yeux sur la réalité de sa mission, la réalité de son identité, que les disciples n'avaient pas encore tout vu, tout compris. Et en verset 31, c'est là où nous voyons ce que les disciples ne voyaient pas encore clair. Verset 31, « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme, le Christ, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. » Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Là, on voit que les disciples n'avaient pas tout vu jusqu'à là. Jésus dit maintenant, je vous explique notre manière de... ma mission, ma destination, c'est Jérusalem, et là je vais mourir. C'est comme ça que je vais remporter la victoire, c'est comme ça que je vais sauver, c'est comme ça que je vais devenir le Christ puissant royal, je vais perdre, je vais mourir. C'est comme si le capitaine d'une équipe de foot réunit son équipe pour l'Euro 2016 et qui dit, voilà, notre stratégie pour gagner la coupe, c'est de laisser l'autre équipe marquer 10 buts. Après, on verra. Vous comprenez que toute son équipe dise, mais essayer de le prendre à part comme Pierre et pour le reprendre. Non, 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 non. Ça, c'est pas la bonne stratégie. Laisser l'autre équipe marquer 10 buts avant de rien. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Nous allons à Jérusalem et c'est pour perdre. C'est pour perdre contre les Romains. C'est pour perdre contre les autorités. Je vais me faire rejeter et tuer et crucifier. Et voilà, c'est ça être le Christ. Et Pierre comprend pas. Pierre ne voit pas cet aspect du Christ. Alors il le reprend. Et le comble, Jésus va encore plus loin. Non seulement il dit c'est ça être le Christ, mais être les disciples d'un tel Christ, c'est que vous allez me suivre. Vous allez me suivre et vos vies doivent adopter ce même schéma de perdre pour gagner. Vos vies doivent vont correspondre. Vous n'allez pas vous-même être crucifié pour les péchés du monde, mais vous allez devoir vous renoncer à vous-même, prendre votre croix et me suivre. Parce que c'est ça le chemin du Christ, c'est ça un chemin chrétien, un chemin de Jésus. C'est-à-dire vos rêves, vos aspirations de grandeur, vos aspirations de confort, vos aspirations de promotion, tout ça, il faut les crucifier. Tout ça, il faut les renoncer. Et Jésus dit ça, et il va répéter dans chapitre 9 et dans chapitre 10, il répète le même discours encore deux fois, où il dit, il explique clairement, ouvertement à ses disciples qui sont en route pour Jérusalem, et c'est là qu'il va être rejeté et crucifié. Et chaque fois qu'il dit à ses disciples, ce chemin, le vrai chemin du Christ, chaque fois les disciples ne comprennent pas. Chaque fois, leurs réactions sont à côté de la plaque. Il y a celui de Pierre, celle de Pierre ici en chapitre 8, où il va essayer de le reprendre. En chapitre 9, il se dispute, il dit que nous sommes en chemin pour Jérusalem, et les disciples en chemin, ce chemin de Christ, ce chemin de la croix, en chemin, ils se disputent pour savoir qui est le plus grand. Nous allons à Jérusalem pour. Je vais donner ma vie pour les autres, je vais me sacrifier, je vais me faire tout faible, tout petit. Et les disciples se disputent pour savoir qui sera le plus grand. Vous voyez, ça, c'est à côté de la plaque comme réaction. Et puis en chapitre 10, c'est les versets que nous avons lus pour préparer la scène. Jésus, pareil, il leur explique que nous sommes en chemin pour Jérusalem, je suis en chemin pour être le Christ. Et là, la réaction, c'est que Jacques et Jean veulent avoir des places de gloire dans le royaume. Encore une réaction qui est tout le contraire de ce que Christ est, de ce que Christ va devenir. Lui, il n'a pas cherché les places plus importantes, il a cherché la place la plus basse, notamment la place à la croix. Alors, pour que les disciples se disputent pour avoir la meilleure place, la promotion, l'honneur, la gloire, comme eux, ils l'entendent, c'est qu'ils voyaient très flou sur ce qu'était Jésus et ce qu'il est venu faire. Et dans ces chapitres 8, 9, 10, Jésus doit, avec patience, avec amour, il est en train de leur dire, vous ne voyez pas tout, vous n'avez pas tout compris. On est sur un autre chemin que le chemin du monde, le chemin vers la promotion, le chemin vers la grandeur, le chemin vers la gloire de ce monde. Ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est le chemin du Christ, c'est le chemin de la croix. Et vous, si vous voulez être mes disciples, vous venez avec moi. C'est vrai que je vais vers mon trône de gloire. Mais je ne vais pas y accéder comme vous le pensez. C'est vrai que je suis un roi tout-puissant, mais ma gloire et ma victoire ne va pas se gagner comme vous l'entendez. Et comme il dit, ce verset clé, 10-45, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà ce qu'il doit montrer à ses disciples. Voilà ce qu'ils n'ont pas encore tout vu. Et nous, avons-nous saisi cet aspect de Jésus et les implications pour notre vie? Le Christ, c'est merveilleux. Il est puissant, il est fort. Il est venu pour sauver, il est venu pour réparer les choses. Mais tout ça, il a fallu qu'il meure. Pourquoi fallait-il qu'il meure? Ben, c'était pour mon péché, c'est pour nos péchés. Avons-nous saisi cela? Les disciples pensaient qu'il allait gérer le problème de l'occupation des Romains. Mais en fait, le vrai problème qu'il allait gérer, c'est le fait que nous avons trop souvent, nous avons voulu occuper la place de Dieu. Et ça, c'est un tort plus grand que l'occupation des Romains à Jérusalem. C'est nous, la façon que nous voulons toujours occuper la place de Dieu et diriger nos vies sans lui, sans ses pensées, sans ses lois. Alors Jésus a géré ce problème surtout, pas l'occupation des Romains, notre occupation du trône de Dieu. Et pour cela, il a quitté son trône et il s'est mis sur la croix, là où nous méritons d'être. Et il appelle ses disciples à comprendre ça, et à le suivre et à adopter ce même schéma de sacrifice, de service pour leur vie aussi. Pour l'instant, ils sont craintifs, pour l'instant, ils ne comprennent pas tout, mais ils vont, nous le savons, ils vont avoir un jour une vision claire et nette comme cet homme. Et c'est le troisième et dernier point que nous pouvons voir ce matin. Jésus finalise, il complète la guérison. Et l'homme, dit le verset 25, l'homme fut guéri et vit tout distinctement. D'ailleurs, c'est intéressant, dans les versets 24, 25, 28, 26, les commentaires disent qu'il y a au moins 8 mots différents en grec pour parler de la vue ou de la vision. Tellement Marc veut mettre l'accent sur cet aspect de la foi, de pouvoir voir et comprendre. Et pour que cet homme retrouve complètement la vue, il fallait que Jésus le touche, le prenne par la main et l'amène plus loin dans sa vue. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec les disciples dans ces chapitres et les suivants. Il les amène plus loin pour qu'ils voient distinctement son œuvre, son identité. Et je pense que c'est un schéma aussi pour nos vies, cette révélation progressive que Dieu accorde, que Jésus accorde. Dans mon expérience, quand je vois autour de moi, la plupart des conversions suivent ce schéma. C'est vrai que pour certains, c'est très instantané, très immédiat. Jésus peut guérir, il peut ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur immédiatement. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une exception, en tout cas à l'époque que nous vivons. En France, c'est que les gens avancent vers une compréhension de Jésus. Peut-être qu'ils commencent à voir qu'il est bien, qu'il est sympa, qu'il est noble, qu'il est touchant, qu'il est beau, mais sans avoir tout saisi. Et puis, à force d'être touché par lui, peut-être des cantiques que l'on chante ou des messages qui sont prêchés ou la lecture, comme la lecture d'un évangile ou la lecture du Nouveau Testament, cette vision, cette compréhension de Jésus devient claire et nette. Et là, le vrai œuvre s'est opéré dans le cœur. On ne sait pas exactement à quel moment pour beaucoup, mais les yeux se sont ouverts sur Jésus-Christ. Peut-être c'est ce que vous avez vécu. Il y avait une connaissance de Jésus-Christ parce que bon, on est né dans une famille chrétienne ou bien on est influencé un peu par un héritage chrétien. On connaît Jésus, on trouve ça, c'est plutôt bien d'être croyant ou de vivre sa foi. Mais on n'a pas encore tout vu, notamment ce qu'il a fait pour nous. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que vous voyez clairement, vous voyez distinctement? Eh bien, vous avez été touché, Jésus vous a touché, c'est sûr, comme il a touché cet homme, comme il touche ses disciples, il les prend par la main en quelque sorte sur ce chemin et découvre pleinement qu'il est. Je dirais que les disciples vont vivre ce moment plus tard et ce sera avec la croix et la résurrection que là, leurs yeux vont s'ouvrir complètement sur qui est Jésus. Quand ils comprennent la croix et la résurrection, tout cet évangile dirige nos regards vers cette croix et vers cette résurrection. Quand ils saisissent ça, quand ils sont touchés, là ils voient clairement. C'est ce qui nous permet de voir distinctement, clairement, ce qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, quand on le voit à la croix, quand on le voit ressuscité, comme nous avons pu nous en rappeler ce matin, par les chants, par la Sainte Cène. Et c'est lorsque Jésus nous touche par le don de sa vie, par le prix qu'il a payé pour notre rançon, C'est ça qui nous pousse à le suivre complètement, à le suivre entièrement, à ne plus avoir peur. Jésus nous aide peut-être à comprendre son œuvre avec ces questions par lesquelles il termine notre texte. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme, de sa vie? C'est pertinent ce qu'il dit parce que tout le monde cherche à gagner sa vie, tout le monde cherche en quelque sorte à racheter son âme. Tout le monde cherche cette promotion, cette réussite. On a tous des aspirations de grandeur et de gloire. Alors certains le cherchent, certains pensent que le prix à payer ou ce qu'il faut donner, c'est une réussite au travail, une réussite au sport, une réussite familiale ou romantique. Les gens dépensent quelque part beaucoup pour se racheter, pour se promouvoir, pour monter en gloire. Mais Jésus dit, si vous essayez comme ça, vous allez perdre. Vous allez vous perdre et vous allez perdre ces choses que vous cherchez. C'est vrai, écoutons le monde autour de nous. Qu'est-ce que le monde dit? On connaît le message de Jésus, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même. Que dit le monde autour de nous? Eh bien, quasiment, elle dit tout le contraire. Elle nous dit, si quelqu'un veut être bien, qu'il s'occupe d'abord de lui, qu'il s'occupe d'abord de lui-même, qu'il cherche ses plaisirs, son confort, et qu'il reste farouchement indépendant, libre et égoïste. Voilà. Le monde dit, suivez-nous. Si quelqu'un veut suivre le monde, qu'il s'occupe d'abord de lui-même, qu'il cherche ses plaisirs, et qu'il reste farouchement indépendant, libre et égoïste. Mais nous savons, c'est une recette garantie d'autodestruction. Dans un couple, vous savez très bien, ça ne marche pas. Si chacun cherche à gagner sa vie, si chacun cherche à uniquement ses propres plaisirs, son propre confort, à rester indépendant, vous savez, c'est une recette pour le désastre. Alors, le conseil, l'appel de Jésus, au fond, nous savons qu'elle est juste. Si quelqu'un veut vraiment atteindre la vie, qui renonce à lui-même. Jésus a perdu le monde pour nous gagner. Jésus le Saint, il a pris notre honte pour que nous n'ayons pas honte devant l'univers. Et nous pouvons répondre à ces questions. Nous, que donnerait un homme en échange de son âme? Je n'ai pas besoin de donner moi-même un prix, parce que Jésus a déjà payé le prix. Et quand vous voyez ça avec les yeux de votre cœur, vous voyez ce que Christ a fait pour vous, alors là, vous ne pouvez que le suivre.